dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes.
Bonjour à toutes et tous, on est de retour au 11 bis de la rue des bons enfants, toujours avec Mathilde Bléza, toujours militante féministe et autrice de l'essai pour l'autodéfense féministe aux éditions de La Dernière Lettre et paru en février 2022. Avant de rejoindre Mathilde et Gab, pensez à vous abonner sur vos applis de podcast. Je viens d'ailleurs de voir que le podcast est disponible sur l'appli AntennaPod, dont j'ignorais encore l'existence il y a une heure. J'en profite pour saluer les camarades qui nous écoutent sur AntennaPod. Et à chaque nouvel abonné, ce sera un siège de député en moins pour les types de LREM, de l'UMP et du FN. Bref, dans cette deuxième et dernière partie, on va voir ce qu'est l'autodéfense pour les femmes, quelle est son histoire depuis son apparition dans la lutte pour le droit de vote des femmes au début du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui en Europe francophone, de quelle manière l'autodéfense permet aux femmes de se préserver des violences physiques et psychologiques. Mathilde et Gab vont aussi nous aider à défaire nos idées reçues sur les mécanismes d'apparition de ces violences. On a voulu produire un contenu facile d'accès si vous découvrez le sujet et en même temps approfondir si vous êtes déjà sensibilisé ou vivez ces problématiques. J'espère que cela vous plaira. C'est parti.
Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir radio prend place et le vieux monde est à la casse. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir à Dieu prend place et le vieux monde est à la casse.
Ben, on a eu envie d'aborder ensemble le sujet que tu portes dans ton dernier livre pour l'autodéfense féministe, sorti en février 2022 aux éditions de La Dernière Lettre. Donc, dans ce livre, tu abordes le sujet de l'autodéfense féministe sous différents angles et tu donnes notamment la parole à des personnes formées et aussi les formatrices. Bah d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est l'autodéfense féministe et éventuellement, qu'est-ce que ça n'est pas?
Alors, l'autodéfense féministe, c'est une pratique qui, historiquement, remonte à une centaine d'années. Mais disons qu'il y a eu plein de formes. Moi, je me suis concentrée sur l'autodéfense féministe telle qu'elle est pratiquée en France et en Belgique francophone et en Suisse francophone aujourd'hui. Et du coup, pour parler de ce mouvement-là, je suis revenue sur l'histoire d'autodéfense féministe aux États-Unis et au Québec, Canada, et non pas forcément dans le monde entier, alors qu'en fait, il y a de l'autodéfense féministe dans énormément de pays dans le monde. Mais voilà, je ne les ai pas étudiées, quoi. C'est pour ça que voilà, dans mon livre, je parle surtout de l'Amérique du Nord. Ce n'est pas du tout parce que c'est que là-bas qu'il existe, que ça existe, au contraire. Et donc, en fait, c'est l'autodéfense féministe. Enfin, ça a été créé par des militantes pour se défendre elles-mêmes collectivement contre des attaques antiféministes. C'est vraiment l'autodéfense du mouvement avant tout. Par exemple, dans les années 1910, c'était les suffragettes en Angleterre, qui étaient donc, disons, les militantes radicales de la lutte pour le droit de vote des femmes, de la lutte suffragiste. Et donc, elle faisait beaucoup d'actions directes, de manifestations un peu violentes. Enfin, voilà, c'était assez radical. Et elle subissait énormément de répression policière ou une répression qu'on peut qualifier de masculiniste, quoi. Enfin, quand elle se faisait attaquer par les hommes et par la police, en gros. Donc, il y a une femme qui était prof de jujitsu, qui avait un dojo avec son mari à Londres, qui les a rencontrés et qui a rejoint le mouvement d'ailleurs. Et elle, en fait, elle a commencé à faire des cours de jujitsu pour les militantes suffragettes, pour qu'elles puissent se défendre contre les agressions et les violences. Et petit à petit, elles ont créé même un espèce de service d'ordre qui s'entraînait comme ça toutes les semaines au jujitsu et pour défendre les militantes. Donc, elle se débattait, défendait physiquement contre la police, par exemple, pour empêcher des arrestations, etc., etc. Donc, ça, c'est un peu les débuts de l'autodéfense, portée par des féministes. si voilà, cette histoire des suffragettes dans les années 10-20 en Angleterre. Et dans le même temps, enfin dans les années un peu similaires, il y avait des choses qui se passaient aux États-Unis, plus ou moins féministes, hein, pas forcément que des pratiques féministes, mais c'était la mode des arts martiaux japonais qui était arrivée. Enfin, il y avait cette mode du japonisme qui était arrivée en Europe occidentale et aux États-Unis. Et donc, tout le monde s'était mis aux arts martiaux. Mais du coup, il y avait aussi ce développement des arts martiaux et de la boxe pour les femmes. Donc, c'est pas forcément féministe. Mais il y avait aussi voilà, des groupes qui sont emparés de ces outils-là dans des pratiques d'émancipation féministe, du coup. Et après, vers la Première Guerre mondiale, tout ça est un peu tombé dans l'oubli. Aussi parce qu'il y avait un retour de l'ordre moral. Enfin, aussi, il y avait les forces réactionnaires qui ne voulaient pas que les femmes fassent de la boxe, quoi, disons. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment... L'autodéfense, c'est resté juste dans la police et l'armée, enfin, des trucs... ou des trucs même racistes contre les hommes noirs, etc. Donc, c'est tombé dans l'oubli. Et dans les années 70, des militantes féministes en Amérique du Nord ont réinventé, enfin, ne connaissant pas l'histoire des années 10, étaient aussi victimes d'agressions antiféministes. Et donc, ont commencé à s'organiser, à s'entraîner ensemble pour se défendre, pour trouver des pistes pour se défendre. Et souvent, c'était des personnes peut-être qui pratiquaient des arts martiaux et qui, du coup, réutilisaient des techniques, mais aussi injectaient d'autres types de techniques, qu'elles soient verbales ou mentales. Et donc là, j'en arrive à qu'est-ce que c'est l'autodéfense féministe dont je parle dans mon livre, c'est-à-dire les associations qui font ça aujourd'hui en Europe francophone. C'est que le principe de base, c'est que c'est pas parce qu'on aura fait 10 ans d'art martial qu'on pourra se défendre en tant que femme, par exemple, contre des violences patriarcales, parce que c'est pas qu'une histoire de physique, c'est beaucoup d'abord une histoire mentale, c'est-à-dire que casser cette barrière mentale qui fait qu'on nous a éduqués en nous disant qu'on ne pourrait jamais se défendre contre un homme. Et que du coup, c'est d'abord un déclic mental à avoir. Donc, il y a beaucoup de choses autour de mental. C'est-à-dire, le mental, c'est on a le droit de se défendre contre les violences qu'on subit et on en est capable, on a des outils. Donc, c'est casser ce truc de la vulnérabilité et aussi du non-droit, finalement, à se défendre. Donc ça, c'est assez important, l'autodéfense féministe, et ce qui différencie beaucoup de tout ce qui peut être pratique de self-défense, qui axe beaucoup sur le physique. Deuxième chose importante, c'est que dans l'autodéfense féministe, en fait, il y a une description des mécanismes des violences qui est faite, c'est-à-dire qu'on va, dans les stages d'autodéfense, on va passer par un état des lieux et c'est quoi les violences qu'on subit. Et du coup, il y a une grande part de mise à mal de grands mythes qui seraient, par exemple, que on subit des violences ou des viols. La plupart des viols auraient lieu dans l'espace public, la nuit, dans un quartier populaire, du fait d'un homme inconnu à capuche. Ce qui est assez dingue, c'est que ce mythe a la dent dure, alors que dans les statistiques, c'est sans appel, quoi. Il y a 91% des viols sont commis par quelqu'un qu'on connaît. Donc quelqu'un de l'entourage, que ce soit le conjoint, le compagnon, quelqu'un de la famille, un copain, quelqu'un du travail. Et donc c'est assez dingue que face à un chiffre aussi énorme, on en soit encore à dire que les viols, c'est forcément dans la rue la nuit par un jeune non blanc, quoi. Enfin, c'est vraiment terrible pour ça, parce que du coup, ça nous met... ça fait que dans des situations face à des hommes qu'on connaît, on se méfie pas, on n'identifie pas les violences qu'on va subir. Autre exemple, ça va être de décrire c'est quoi les violences conjugales. Parce que souvent, dans les phénomènes d'emprise, on a du mal à voir, en fait, à part le truc de se prendre une claque dans la figure, la violence physique, ça, ok, on peut peut-être l'identifier. Mais en fait, il y a plein de mécanismes avant la violence physique qui sont de l'emprise psychologique, qui peut être, voilà, un jour tout va bien, le lendemain tout va mal, faire porter la faute sur la personne qui est violentée, etc. Et donc, c'est assez important, ça, dans l'autodéfense, c'est de, de partager cette description des mécanismes des violences conjugales et autres. Par ailleurs, dans l'autodéfense, ce qu'on fait, c'est voilà, c'est pas du kung-fu. L'objectif, c'est de réduire les violences et d'empêcher l'escalade des violences. Du coup, tout ce qui est parti d'autodéfense physique, qui existe hein, dans l'autodéfense féministe, c'est le dernier recours finalement. C'est vraiment une pratique de prévention des violences, c'est pas un sport. C'est vraiment, on peut différencier ça du sport de combat, de l'art martial, qui sont très bien, mais c'est des sports. Ça, c'est des pratiques de prévention des violences qui s'inscrivent dans la lutte contre les violences patriarcales, quoi. Et donc, l'idée, c'est d'identifier ses limites, de savoir reconnaître quand on se sent mal à l'aise dans une situation, et du coup, d'interrompre cette situation avant que ça s'envenime, on s'embarque dans des trucs de plus en plus désagréables, puis violents, etc., etc. Du coup, savoir poser ses limites ou s'ancrer dans le sol, dans l'espace, et avoir un regard et une manière de renvoyer des informations, disons, corporelles qui sont plus claires et qui mettent un stop, finalement, à des situations. Après ça, il va y avoir tout ce qui est autodéfense verbale, ce qui sera de dire non fortement ou de dire des choses. Il y a plein de techniques d'autodéfense verbale pour mettre fin à des situations désagréables ou violentes. Enfin, l'idée, c'est d'en arriver moins souvent à être confronté à de la violence physique ou sexuelle claire, quoi. C'est de pouvoir arrêter les situations avant qu'elles s'enveniment. Enfin, moi, ce que j'ai voulu faire dans mon livre, c'est vraiment décrire c'est quoi l'autodéfense féministe pour la dissocier en fait de pratiques dont on entend beaucoup parler, par exemple self-défense féminin, tous ces trucs-là qui sont des cours dans des clubs de sport donnés par des gars qui connaissent rien au sujet des violences fondées sur le genre et qui du coup sont peut-être bien d'un point de vue sportif, mais pas d'un point de vue des préventions des violences et qui sont plein de compétition dans le sens où ça va être très validiste, ça va être allez, il faut que tu tapes, que tu arrives à mettre ton pied au-dessus de l'épaule et donner un coup de pied dans la tête, alors que c'est pas réaliste. Enfin, c'est dans la vie quotidienne, non, quoi, c'est pas accessible à toutes les femmes. Et en plus, c'est pas ça qui va nous permettre de nous en sortir face à des violences, parce qu'il y a beaucoup de parts de violences psychologiques, par exemple. Et voilà, dans les clubs de sport, ça va être ça, quoi, ça va être. Taper des mecs dans la rue, enfin, en fait, c'est pas de l'autodéfense féministe, quoi. C'est du sport, et souvent, d'ailleurs, ça a une approche très sécuritaire, et souvent raciste, des violences. Allez, il faut prendre aussi un taser dans ton sac, il faut avoir des caméras partout, il faut avoir des préjugés sur tous les jeunes gars à capuche que tu croises, alors que pourtant, peut-être, c'est eux qui vont t'aider dans une situation de violence. Enfin, c'est... Voilà. C'est pour ça que l'autodéfense, moi j'avais envie d'en parler pour qu'on dissocie ça du côté sport au féminin, comme ça s'appelle, qui n'a aucune analyse des violences.
Parce que justement, ouais, cette dernière pratique, elle ne s'intéresse pas aux mécanismes et à la façon dont les violences se produisent, quoi.
Mmh. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. C'est à côté de la plaque, en fait, sur les mécanismes de violence. Enfin, moi, je suis assez contre ces appellations. Je préfère qu'on dise qu'un club de sport, il se concentre sur, s'il a envie de se concentrer sur faire du sport aux femmes, très bien, mais qu'il ne vende pas un truc de self-défense qui est tout pourri. Enfin, où on va leur refaire, en plus, on va rejouer des scènes violentes. Enfin, il y a des trucs, des fois, des mises en situation qui sont vraiment. Voilà, ils n'ont pas réfléchi à ça, mais du coup, ils vendent plus de. Finalement, ils sont plus connus que les militantes associatives qui proposent de l'autodéfense pour les femmes. Dans le monde de la prévention, il y a aussi les institutions ou les écoles ou quoi, qui vont travailler avec parfois des assos qui font de l'autodéfense pour les femmes. Mais ça va être les assos de gendarmes à la retraite, par exemple. Parce que eux, leurs stages ne sont pas chers, ils sont à la retraite, ils ont leur retraite de gendarme. Il y a une asso comme ça à Marseille qui bosse avec les institutions et c'est scandaleux parce que eux, déjà la police et la gendarmerie, on sait que c'est des piliers du patriarcat qui ne sont pas exempts de violence. Et ils n'y connaissent rien. Donc, ils vont dire, sors pas la nuit toute seule, il n'y a que des voiriens dans la rue, et qui vont, par contre, sur les violences conjugales, ne parler de rien. Voilà, un truc classique comme ça. Donc, en tout cas, dans l'objectif de lutte contre le patriarcat et contre les violences, ça ne marche pas, quoi, ce genre de pratique-là. C'est pour ça aussi que dans le livre, j'avais envie de passer du temps à dissocier, à montrer aussi que l'autodéfense féministe, voilà, ce n'est pas une approche sécuritaire, ce n'est pas non plus du développement personnel, que l'idée, c'est aussi la lutte collective. Même si on apprend des techniques qu'on va utiliser toute seule, en fait, il y a ce groupe-là, du stage d'autodéfense, où on est en mixité choisie et où il y a des rituels collectifs, il y a de l'encouragement mutuel, il y a la prise de conscience ensemble. Et du coup, ça crée quand même du collectif sur le moment, en deux jours, qui est assez beau à voir. Et même si ça ne devient pas un groupe ou un collectif, il y a quand même pas mal de personnes qui vont s'engager dans des luttes après avoir participé à un cours d'autodéfense féministe, alors qu'elles ne se connaîtraient pas le féminisme, elles ne seraient pas féministes, parce que les assos, elles ne parlent pas d'autodéfense féministe, elles disent autodéfense pour les femmes. Parce que l'idée, c'est pas d'être, on n'est pas obligé d'être féministe ou même de connaître le mot pour y participer. L'idée, c'est d'adapter, d'être accessible à toutes, quoi. Moi, je dis féministe souvent pour la question dans mon livre parce que pour moi, c'est une pratique qui vient des militantes féministes et qui est féministe. Et du coup, j'avais envie de l'affirmer un peu comme un slogan pour l'autodéfense féministe, comme titre, quoi. Et aussi parce que je porte une revendication. Mais dans le livre, j'explique bien comment les assos travaillent et que ce n'est pas un truc qui est fait pour les féministes. Elles ne leur parlent pas de féminisme, en fait. Elles ne disent pas le mot, particulièrement dans les stages. C'est vraiment partir des vécus concrets et d'échanger des histoires, des pratiques. Oui, parce qu'il y a tout cet aspect aussi où ce n'est pas des profs qui inculquent du savoir, c'est vraiment on échange, on partage des expériences. On échange des outils, des stratégies d'autodéfense. Et la formatrice, elle facilite, elle donne plein d'outils, mais elle n'est pas là de manière professorale à dire « il faut faire ça ou ça ». C'est vraiment axé sur l'autonomie et le choix, quoi.
Sur cette, on va dire, la mythologie de l'agression dans la rue, etc., je voulais partager un extrait d'un livre de Taous Merakchi, « Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes », où elle parle justement en fait, de cette peur de la rue et t'en parlais aussi en première partie, quoi, de se réapproprier la nuit. Et du coup, voilà, c'était pour te partager cet extrait et c'est lu par Sarah.
Une femme dans la rue la nuit n'est pas un individu, c'est une proie. C'est un appât, un prétexte, une excuse. Et s'il m'arrive quelque chose, ce sera bien fait pour moi parce que tout le monde sait qu'on ne doit pas se promener seul et sans défense la nuit. Il est acquis que les femmes se font attaquer dans ces conditions. C'est normal et accepté. Si ça n'arrive pas, c'est une chance. On l'a échappé belle et on s'en est bien tiré. Si ça arrive, c'est que la règle s'est confirmée et qu'on est tombé dans le piège. Alors, quand on se retrouve seul dans une rue la nuit, on a le ventre qui se contracte de trouille, on met ses clés entre les doigts pour se donner l'illusion d'être armé. On regarde dans les rétroviseurs, les pare-brises, les vitrines des magasins pour surveiller ses arrières sans en avoir l'air. Parce qu'il faut en plus qu'on camoufle sa peur pour ne pas allumer le panneau victime potentielle au-dessus de sa tête et attirer les bêtes assoiffées de peur et de domination. On retient son souffle. On garde ses écouteurs pour créer une barrière visuelle, mais on éteint la musique pour ne pas se faire surprendre. On marche vite, mais d'un air décidé et assuré, et on ne souffle qu'une fois qu'on a fermé la porte d'entrée derrière soi, à triple tour. On connaît ces histoires d'agresseurs qui mettent un pied dans la porte et qui la referment derrière eux pour s'enfermer avec leurs victimes. Alors chaque seconde compte et on n'est jamais vraiment entièrement sûr d'être tiré d'affaire. Il peut encore sonner à la porte sous un faux prétexte un beau jour ou s'introduire par effraction au milieu de la nuit. Alors la lune, on la regarde par la fenêtre et on soupire en s'imaginant flâner sous ses rayons. On s'imagine adopter un trio de Rottweiler, s'acheter un taser et prendre des cours de Krav Maga pour un jour, peut-être, réussir à foutre un pied dehors après minuit sans se transformer en grosse trouille. Et quand on s'en plaint, on s'attire comme réponse que « bah ouais, bah c'est normal, bah forcément il y a des tarés, les hommes sont des animaux, bah vous savez bien comment c'est fait, bah fallait pas tenter le diable aussi, hein, bah ». Ces évidences qui n'auraient jamais dû en devenir, j'en ai plein la gorge.
Qu'est-ce que ça t'évoque, ça ?
Bah, à la fois des peurs réelles et tout, mais ça m'évoque la peur qu'on nous a... la trouille qu'on nous a infligée, en fait, qu'on nous a inculquée. On nous a appris à avoir peur que de ce genre de situation. Moi, c'est ça que je critiquerais dans notre éducation, c'est qu'effectivement, c'est pas faux qu'on se fait harceler la nuit. Et en plus, ça dépend de notre âge et ça dépend. Voilà, enfin, on voit aussi que ça change avec l'âge. Mais ça m'évoque qu'on nous a maintenus à la maison en exagérant ces peurs-là. C'est un peu comme le jogging, enfin, le mythe de la joggeuse qui se fait violer, trucider. Ça arrive tous les, pas 10 ans, 7 ans, mais alors qu'il y a tous les jours des nanas qui se font défoncer à la gueule ou qui sont violées par ailleurs, quoi. Et ouais, ça m'évoque cette peur qu'on nous a inculquée et qui du coup nous paralyse et nous fait rester à la maison. Et en plus, ce qu'elle dit très bien, très justement, c'est que si on brave cet interdit-là, mais qu'il nous arrive quand même quelque chose, ben on va nous dire que c'est notre faute. Donc c'est le truc qui s'auto-alimente, c'est-à-dire que on ne veut pas non plus être tenu pour responsable d'avoir été agressé. Enfin, déjà, là, dans son texte, elle donne plusieurs pistes d'autodéfense, en tout cas ses stratégies à elle, qui sont des stratégies communes à plein d'entre nous. Avoir ses clés entre ses mains, ne pas allumer le panneau victime potentielle, c'est-à-dire avoir peur mais pas le montrer, ne pas envoyer ces signaux-là, etc. Alors, c'est beaucoup de culpabilisation et tout, hein, on voit d'où ça vient, mais c'est des stratégies d'autodéfense qu'elle... de refermer la porte vite, etc. C'est des stratégies. Et après, il y avait par exemple une formatrice d'autodéfense. Parce que moi, comme tu disais, j'ai interviewé des formatrices et des participantes à des stages, nombreuses. Et les formatrices, je les ai interviewées en tant que formatrices, mais aussi d'abord, comment vous avez rencontré l'autodéfense. Et toutes, elles l'ont rencontré en faisant un stage, en ayant des vécus de violence. Enfin, elles sont aussi des participantes d'abord. Et il y en avait une qui me racontait que, au moins grâce à l'autodéfense, il y en a plusieurs qui racontent ça, hein, mais je parle d'un cas, d'avoir les outils en tête et de les avoir appris, ça permettait d'évacuer ce genre de peur. C'est-à-dire que, oui, le danger, enfin, les risques sont toujours là, ce qu'ils sont là, mais ce n'est pas de notre faute, les risques, ce n'est pas de notre sort. Mais d'au moins avoir. Travailler sur quelques pistes d'autodéfense dans tous les contextes, mais par exemple ce contexte-là de la nuit et tout, ça permet de se dire de sortir de manière plus sereine. Au lieu de focaliser sur la peur panique, la peur peut être une bonne adrénaline, hein, c'est pas pour dire, mais la peur paralysante qui empêche de sortir ou qui tétanise, c'est se focaliser sur les options qu'on a, sur les stratégies qu'on peut mettre en place pour se défendre. Et du coup, c'est pas tout à fait pareil de sortir en mode par panique, je n'ai aucun outil, ou de sortir en disant, si y a ça, je fais ça, si se passe ci, je fais ça, quelles sont les possibilités, c'est quoi le chemin, et tout. Et bien sûr, on est toujours responsable de notre autodéfense, enfin, on reste, mais bon, là, on n'a pas abattu le patriarcat, donc on va quand même subir des violences. Mais souvent, les gens peuvent dire « Oui, mais du coup, t'es super angoissée, c'est de l'hypervigilance. » En fait, non, moi, je trouve que, en tout cas, avoir des outils d'autodéfense, ça limite... De toute façon, on avait la peur panique de sortir, etc. Mais avoir des outils, au contraire, c'est... en fait, tu as tes petites stratégies et après, tu peux arrêter de stresser. Je veux dire, ça fait partie des... C'est la prévention, c'est ça. Je veux dire, quand on traverse une rue... Quand on fait du vélo dans un espace urbain motorisé, oui, on pense aussi aux risques, mais du coup, on a quelques pistes de prévention et du coup, on le fait quand même. Enfin, je veux dire, pourquoi dans les écoles, on va faire des trucs de prévention routière, de prévention des maladies sexuellement transmissibles, mais pas par rapport aux violences, qui est un tabou total dans le milieu scolaire. Pourquoi on devrait avoir les yeux fermés? Enfin, on nous a toujours appris à baisser le regard. Pourquoi on ne nous a pas appris à observer autour de nous ce qui se passe?
Il y a un truc que tu développes beaucoup dans le bouquin, c'est que pour les associations, il y a une importance qui est donnée au fait de proposer des stages au niveau du public, non pas aux femmes comme étant un public un peu universel, homogène, mais d'adapter en fait le contenu et les stages à différents publics en fonction de critères intersectionnels. Est-ce que tu pourrais expliquer les raisons qui amènent à cette démarche-là?
Il y a plusieurs raisons. Et peut-être vraiment le truc important, c'est que c'est pas de mettre les gens dans les cases et de leur dire t'as ce handicap, faut que t'ailles dans ce stage-là. C'est vraiment que ce qui s'appelle le stage de base, le stage classique, que le stage classique, il est ouvert à partir de 16 ans jusqu'à n'importe quel âge et qu'il n'y a pas de restrictions. On peut être une femme trans, une femme noire, on peut être en fauteuil roulant ou quoi, et y participer. Mais que voilà, ouvrir cette possibilité d'approfondir les questions, de faire d'autres mixités, ce que j'ai appelé des mixités choisies additionnelles, pour déjà travailler plus en profondeur, mais aussi pour ouvrir... parce que les personnes ne vont pas forcément dire « Oui, c'est ouvert à toutes, mais moi, je suis déjà... » Enfin, c'est comment on se situe dans le monde. On se dire quand même « Oui, bah, c'est un truc pour des femmes blanches de 30 ans, hétérosexuelles. Enfin, » c'est, même si c'est écrit « C'est ouvert à toutes », ce n'est pas forcément évident. On a tout intégré aussi quelles sont les barrières auxquelles on se confronte et que parfois, passer par un stage, un autre format, permet de sentir plus accueilli ou concerné par le truc, quoi. Que la revendication politique, c'est des personnes qui faisaient de l'autodéfense et qui ont décidé de faire des associations, c'est de pouvoir offrir des stages de défense à toutes les femmes du pays, quoi, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, pour qu'elles puissent se défendre contre les différents types de violences qu'elles peuvent vivre, qui ne sont pas forcément que des violences fondées sur le genre, d'ailleurs. Pour que ce présupposé, enfin, cette envie-là, volonté-là, elle soit réaliste. Moi, c'était vraiment l'objet de mon livre, c'était confronter mon vécu et ceux des personnes qui me ressemblent à d'autres femmes qui n'ont rien à voir avec moi, comment elles ont vécu ces stages-là, pour voir si réellement c'était adapté à toutes, etc. Et c'était assez convaincant parce que tout le monde, enfin, plein de femmes différentes, étaient hyper emballées par l'expérience. Donc, c'était un bon indice. Et donc concrètement, ben on le sait, hein, quand on fait des trucs militants ou enfin réfléchit, c'est l'inclusion, enfin, l'inclusion, j'aime pas ce terme, l'adaptation à toutes, enfin le truc d'être ouais accessible à toutes, ça se décrète pas en fait l'accessibilité. Il faut réfléchir à comment tu présentes les choses. Donc déjà, elles n'utilisent pas le mot féministe. Où est-ce que tu les fais? Donc elles vont par exemple les assos. Travailler, vraiment essayer de travailler le plus possible avec des institutions sociales pour proposer des stages qui seront gratuits pour les habitantes dans des centres sociaux, dans des quartiers populaires, dans des écoles, différents trucs, dans des maisons de seniors, voilà. Bah, par exemple, dans les stages de défense, il va y avoir des modules pour les adolescentes ou les filles à partir de 8 ans. Et tu ne fais pas les mêmes stages qu'avec les adultes, parce que déjà, elles ne vivent pas les mêmes types de violences. Elles n'ont pas le même statut. D'être mineure, c'est une domination supplémentaire qui se rajoute à toi quand tu ne peux pas partir habiter ailleurs. Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire quand tu es mineure. Tu n'as pas les mêmes droits, quoi. Et aussi au niveau des outils, parce que ça peut être... pas les mêmes intérêts. Y a des outils qui sont plus ludiques, qui vont travailler plus sur, avec des adolescentes sur des bandes dessinées ou des petits films, des trucs avec, je sais pas moi, du TikTok, enfin j'en sais rien, enfin des outils qu'elles vont plus utiliser, ou les petites filles avec des albums ou des choses à coller au mur avec de la couleur. Enfin, présenter des stratégies d'autodéfense et y réfléchir, ça va pas être la même façon de les présenter à des ados qu'à des femmes adultes, par exemple. Y a un autre type de stage dont je parle dans mon livre, c'est des ateliers sécurité avec des femmes de plus de 55 ans. Et là, c'est pareil, c'est une asso belge qui les a mis en place parce qu'elle se rendait compte que les femmes de plus de 55, 60 ans venaient pas s'inscrire au stage d'autodéfense parce qu'il y a cette image qu'il faut être en super forme physique alors que tous les outils sont adaptés à toutes. C'est-à-dire que on peut être en fauteuil roulant, on peut faire les exercices physiques, on peut les faire assises, on peut les adapter quelles que soient nos capacités physiques. Mais donc, psychologiquement, les femmes plus âgées ne venaient pas. Donc, elles ont dit, on va créer des stages pour les femmes plus âgées. Comme ça, après, elles sauront que c'est pour elles et elles peuvent venir aux autres stages. Donc, ça faisait des groupes où il y a des femmes de 90 ans qui viennent en disant, je ne peux rien faire physiquement, j'ai une canne. Et on va apprendre qu'avec une canne... c'est un super outil, une canne, tu peux te défendre. Il y a plein de choses verbales et mentales que tu peux faire. Enfin, des bonnes stratégies à adapter. C'est pas forcément ça a redonné un coup de pied dans le ventre, quoi. Et sur les questions intersectionnelles, il y avait aussi Il y a la question des différents handicaps aussi. Donc, par exemple, moi, j'ai travaillé sur... Il y a des assos qui ont mis en place des stages en langue des signes, interprétés en langue des signes. Parce que pour le coup, là, c'est une question de communication, de langue de communication, où des femmes sourdes, signantes, n'entendent pas et ne parlent pas le français, donc du coup, oral, quoi. On traduit, on interprète en langue des signes. Et c'est à la fois pour interpréter le contenu, mais aussi pour avoir un groupe de femmes sourdes qui vont aussi discuter de sujets de discrimination qu'elles vont subir en tant que femmes sourdes. C'est aussi ce truc de la non-mixité, de la mixité choisie, où des sujets émergent parce qu'on est entre personnes concernées par une même discrimination. Il y a des stages qui sont développés pour des femmes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. En fait, tout le monde peut participer au stage classique de base. C'est toujours adapté, mais après, dans ces stages-là, on va approfondir plus. Avoir plus de techniques avec des fauteuils roulants ou plus de discussions sur les discriminations qu'on peut vivre du fait qu'il n'y a pas d'accessibilité et qu'il y a beaucoup de mépris si on est en situation de handicap. Pareil sur d'autres types de handicap, par exemple cognitif ou intellectuel. Enfin, voilà, c'est aussi l'idée, c'est de développer des modules ou en tout cas faire des groupes qui vont pouvoir approfondir des outils sur des sujets particuliers parce que c'est les participantes qui amènent aussi les histoires qu'elles ont vécues. Et donc, comme ça, être plus collé plus aux besoins, en fait, et aux réalités, aux demandes des personnes qui viennent. C'est pareil, il va y avoir des choses qui vont axer plus sur la lesbophobie ou d'autres sur le racisme. Je parle avec une formatrice qui veut développer, qui essaye de réfléchir à une autodéfense féministe qui soit plus antiraciste, voilà, qui prenne plus en compte que ça ne l'est déjà, même si ça l'est déjà. Ces questions-là, avec des groupes voilà, en mixité choisie de femmes racisées, par exemple, parce que les stratégies ne sont pas forcément les mêmes et que aussi les analyses ne sont pas les mêmes.
Yes. Alors, je te propose qu'on passe à la dernière question. Ouais. Quel conseil ou quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui nous écoutent et qui aimeraient ou pour les inciter à agir davantage?
J'avoue que celle-là, je n'ai pas préparé la question. Les conseils, je ne sais pas.
Ou quel après, message?
Message, ouais. Ça, c'est assez dur parce que moi, je n'ai pas envie de donner des injonctions aux gens. Honnêtement, c'est vraiment le principe de base de l'autodéfense, c'est de ne pas dire « il faut faire ça ». Franchement, pour s'impliquer plus, pour s'engager plus. Ben, je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire aux gens « il faut que vous engagez plus ». Moi, je ne suis pas un parti politique, quoi. Donc, du coup, je n'ai pas envie de dire... Mais par contre, des gens qui auraient envie et qui seraient en recherche... d'engagement, qu'elles osent s'organiser, si, peut-être oser s'auto-organiser, enfin, s'organiser avec d'autres, se donner ce droit-là, peut-être. Voilà, c'est peut-être ça, parce qu'il y a aussi, je pense, parfois, on ne se sent pas légitime à lutter sur des sujets parce que ce n'est pas des sujets qui existent. Et en fait, si, parce qu'il y a d'autres personnes qui les vivent et qu'en fait, les faire exister dans l'espace politique, médiatique, c'est important. Je pense par exemple à des sujets, je ne sais pas moi, quand on faisait notre corps nous-mêmes, on avait plein de chapitres, et on avait le chapitre sur la grossesse, l'accouchement et tout, et moi d'un coup j'ai dit, mais en fait, il faut qu'on parle du postpartum, de l'après-accouchement. Et il y a quand même pas mal qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient là, oui, bon, c'est quoi ce truc et tout, et je disais, mais en fait, ça, c'est le pire moment, c'est-à-dire que c'est là où il y a plein de dépression, c'est là où les meufs se retrouvent toutes seules. Plus personne, tout le monde s'en fout. Parce qu'autant toute la société médicale, la société en général, survalorise et surprotège le moment de la grossesse, mais pas pour les femmes en elles-mêmes, hein, pour le bébé qui est dans le ventre et la reproduction de la patrie, hein, vraiment, c'est assez frappant. Mais après, on nous laisse complètement à l'abandon. On peut dire qu'on a mal partout. Il n'y a aucun médecin qui en a la foutre. Les gens pensent que tu es en congé. Enfin, si tu es militante, il n'y a plus personne qui vient te voir alors que ça fait des années... que tu luttes sur plein de trucs et que tu es là, toujours là, dispo, il n'y a plus personne. Et donc, par exemple, pour moi et d'autres qui avaient des enfants, c'était dire, mais en fait, ce truc-là, il est invisible dans la société et dans les milieux féministes, sur les deux plans. Et c'est un énorme moment de fragilité, de dépression. Y a quand même, les femmes, elles ont 70 fois plus de risques de suicider dans la première année d'un enfant que dans tout le reste de leur vie. C'est énorme. Et voilà, ça n'existe pas, donc il faut qu'on en parle. Et d'ailleurs, quand on a sorti le livre, il y a eu ce mouvement de Ilana Wiseman et d'autres sur Twitter et ailleurs, qui s'appelait « Mon postpartum ». C'est marrant, parce que c'était au moment où on allait sortir le livre, et elle a sorti ce hashtag, et c'est devenu assez viral. Mais voilà, des gens qui ont montré des photos de la réalité, des témoignages de la réalité de ce qui se passait après un accouchement, et qui ont réussi, du coup, à faire exister politiquement ce sujet, alors qu'elle en souffrait. Enfin, ces deux, trois personnes-là, comment c'est ça, étaient en train de souffrir de ça. Et donc, c'est peut-être ça, moi, peut-être mon conseil, c'est, je ne veux pas donner des conseils, mais c'est se donner le droit à parler de ces sujets. Sur la question du handicap, c'est pareil. Moi, en étant sourde, en fait, les gens n'ont pas envie d'entendre, ils ne savent pas ce qu'on va vivre ou quoi, et c'est pas, ça ne paraît pas des sujets importants, mais en fait, si on a envie de lutter sur un sujet qu'on vit, il faut le faire, parce qu'il y a d'autres gens qui rejoindront cette lutte, il y a d'autres gens que ça libérera, et voilà, c'est peut-être ça. Tu vois, j'avais pas préparé, c'est impro.
Non, c'est cool.
Mais c'est peut-être ça que j'ai envie de dire, quoi.
C'est cool, merci.
Et voilà, et pas s'auto-flageller parce qu'on lutte pas non plus. Hein. On fait ce qu'on peut, déjà tout le monde lutte au quotidien, d'une manière ou d'une autre.
Et pour terminer, il y a plusieurs événements que tu prévois dans les prochaines, bientôt.
Ouais, et bien sur le livre pour l'autodéfense féministe, j'ai déjà fait une bonne tournée qui continue. Donc juste après, normalement le 6 mai, je viens à Valence, mais date à confirmer, à la librairie Notre Temps. 14 mai à Toulouse, on fait une après-midi entière sur l'autodéfense féministe avec des tables rondes, des révisions de stages d'autodéfense, plein de trucs chouettes avec plein d'assos.
Ça, ce sera à la chapelle ?
À la chapelle, ouais, à Toulouse. Et le lendemain, dans le Tarn, le 15 mai, à Rabastens, je fais une présentation du livre avec une militante sourde aussi qui a fait pas mal de stages et que j'ai interviewée dans mon livre qui sera présente. Et ensuite, en mai, il y a d'autres trucs en cours de calage. Puis en juin, le 9 juin, je suis à Grenoble, le soir, pour présenter le livre au 102. Et le 10 juin, le soir, j'anime le café féministe de l'Association des femmes sourdes, citoyennes et solidaires. Pareil, ça aussi, c'est en mixité de femmes sourdes. Mais le lendemain, normalement, il y aura peut-être une présentation publique dans une bibliothèque à Paris. Pareil, à confirmer. En fait, pour les infos sur la tournée, il faut soit aller voir le site des éditions de la dernière lettre, mais plutôt, vu que c'est plutôt moi qui gère la tournée, soit sur ma page Facebook, Mathilde de Blaisa, ou mon Twitter, sur lequel je poste toutes les infos sur la tournée. Voilà.
Yes. Merci pour ça. Et j'en profite pour préciser que tous les épisodes de Rue des Bons Enfants ont leur retranscription écrite sur bon-enfant.fr au pluriel, et en particulier pour rendre les contenus accessibles. Je te remercie encore beaucoup pour cet échange. Merci Mathilde. Et merci
à vous.
Merci.
Merci beaucoup.